et rire et gag dans les longs métrages en tout cas, et que ce soit Dumbo, que ce soit Bambi, que ce soit tous ces films là, on sent cette espèce de d'alchimie incroyable entre des scènes déchirantes et des scènes amusantes. Et ça, je pense que c'est la marque de fabrique Disney qui fait que ça perdure à travers les générations.
Eh bien, messieurs, restez encore avec nous. Pierre Lambert, Hugues Dailly, nous allons encore discuter du génie de Walt Disney dans cette entrée sans frapper spéciale Mickey, spéciale Walt, un peu spéciale finalement.
Entrée sans frapper.
Nicolas Beutars. Entrée sans frapper sur la première.
Pierre Lambert et Hugues Dailly sont toujours nos invités ce matin dans Entrée sans frapper pour évoquer Walt Disney, tout simplement, qui nous a quittés il y a 50 ans déjà. Alors, je le disais, effectivement, nous parlions de ses succès, et puis il y a quand même eu, on peut le dire, hein, les années 90 étaient moins réussies, et puis il y a eu Le Roi Lion. Et Le Roi Lion, ça a un peu réconcilié tout le monde, ça a un peu sauvé tout l'empire Disney, Hugues.
Là, il faut revenir aux années Jeffrey Katzenberg, Michael Eisner. Je pense que Michael Eisner a fait, dans un premier temps, beaucoup de tort pour le mythe Disney. C'est-à-dire qu'il a quand même banalisé le catalogue. C'est l'homme des vidéocassettes, puis c'est l'homme des DVD, c'est l'homme des suites. C'est l'homme des suites en DVD, des numéros 2, des numéros 3, qui sortent directement en DVD. Et ça banalise le mythe parce que, justement, ça affadit ces grands classiques. Et évidemment, ça a été un succès commercial, indéniable, mais ça a été un succès commercial à court terme.
Mais pas artistique, effectivement, parce que le dessin est moins bien travaillé.
Je pense que Eisner était un très très grand financier, mais qu'il lui manquait cette fibre artistique. Et il y a, heureusement, vous le citez, le Roi Lion, qui est un très 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 gros succès en salle, qui est plus dû à Jeffrey Katzenberg, qui partira faire les studios DreamWorks, qui quittera le giron des studios Disney. Je pense qu'il faut quand même créditer ce succès à Jeffrey Katzenberg. Mais c'est vrai qu'avant ça, il y a eu une période de doute, parce que le dessin animé, en termes de coût de production, coûtait de plus en plus cher, était de moins en moins rentable. Et c'est le coup classique, c'est plus ça coûte cher et moins ça rapporte en salle. Plus on essaye de limiter la casse et on fait de l'animation qui est effectivement moins brillante, moins étourdissante que sous le règne de Walt Disney lui-même. Donc il y a eu un véritable creux, il y a eu un exode, il y a des talents qui sont partis, dont Don Bluth qui est parti faire le petit dinosaure. Donc il y a eu une vraie crise, comme dans tous les grands studios, où il y a toujours des périodes plus sombres. Mais heureusement, on a l'impression que cette période-là est derrière.
Et oui, heureusement. Nous sommes donc, Pierre Lambert, en 1994, quand sort Le Roi Lion. Et comme on l'a dit, c'est une véritable renaissance pour Disney.
Oui, effectivement. Alors, Don Bluth, il est parti dès 1981. Hein. Là, on est 80-81. Donc, il y a eu effectivement un moment de flottement assez important. Et puis, il y a eu La Petite Sirène qui a marqué en réalité le renouveau de Disney, puisqu'il a fait un score tout à fait honorable au box-office. Et ça a permis ensuite de trouver le budget, justement, pour faire Le Roi Lion un petit peu après. Il y a eu La Belle et la Bête, évidemment. Donc, ça a été progressif en réalité. Le Roi Lion, le succès du Roi Lion était parfaitement inattendu. Moi, j'ai assisté à l'avant-première mondiale aux États-Unis, je m'en souviens très bien, en plein été. Il faisait très chaud d'ailleurs. Et bon, ils étaient contents de leur film. Enfin, ils savaient pas qu'ils allaient faire un record. Ouais. Donc, ça a été progressif, en réalité, de film en film. Et d'ailleurs, après, c'est retombé. Parce qu'après un tel score, évidemment, on pouvait pas continuer au même niveau. Et donc, les films suivants ont moins bien marché jusqu'à la fermeture du département animation 2D du studio définitive il y a quelques années. Il faut pas oublier que Disney, aujourd'hui, enfin, Disney, Pixar, John Lasseter, ils ont fait une croix sur la 2D définitive.
Ouais.
Ils ont enterré totalement le Walt Disney de l'âge d'or, hein, il n'existe plus. Maintenant, c'est la 3D, la 2D n'existe plus. Alors évidemment, c'est toujours du dessin animé, la technologie a évolué, les films sont très réussis. D'ailleurs, le dernier a l'air absolument extraordinaire au niveau de l'animation, des décors, tout c'est époustouflant. Mais c'est autre chose. Ce charme un peu désuet des dessins animés des années 50 n'existe plus aujourd'hui et il n'y a pas eu de relève. En réalité, la relève, elle n'est pas chez Disney, elle n'est pas aux États-Unis. Elle est plutôt en Europe lorsqu'on voit des films comme Les Triplettes de Belleville, comme Kirikou, Ernest et Célestine, je trouve que
et
le charme
Miyazaki
des dessins animés,
quand même.
Bien sûr, mais enfin c'est encore autre chose. Miyazaki, il y a un style japonais qui est quand même très très marqué, qui est loin du style Disney, contrairement à ce qu'on dit. Au niveau de l'animation, ça n'a rien à voir, et au niveau des décors, c'est une inspiration de Disney chez Miyazaki, et ils le reconnaissent d'ailleurs, ou chez Paul Grimaud par exemple. Donc tout ça, c'est quand même très intéressant parce que ça évolue. Je trouve que l'Europe aujourd'hui se défend très bien en matière d'animation. D'ailleurs, la Belgique est un pays très important au niveau de la fabrication des films en tant que producteur ou coproducteur, et en particulier avec des artistes remarquables. Voilà, donc Les Triplettes de Belleville par exemple a été fait en partie en Belgique.
Exact.
Et c'est est un des plus beaux films d'animation français depuis 30 ans. Donc voilà, il y a beaucoup de talent, beaucoup d'imagination, et très lié à la 2D justement, à l'animation classique, à l'animation disneyenne des années 50, 60, 40, voilà. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on est vraiment dans la 3D, on est dans autre chose, alors avec beaucoup de technologie, beaucoup de talent aussi, hein. Je ne suis pas là en train de critiquer, je suis en train de juste faire le constat qu'au niveau artistique, stylistique, on est vraiment dans la 3D à fond aux États-Unis, et nous en Europe, ben, on est un peu dans les deux. C'est-à-dire quand on fait la 3D, d'ailleurs on la fait de façon un peu différente, avec une notion artistique, disons, plus subtile, plus développée. Voilà, je trouve que les films américains se ressemblent beaucoup les uns les autres, les héroïnes ont un peu toutes les mêmes têtes, les héros aussi, les personnages aussi, ils ont même les mêmes expressions et les mêmes tics, voilà, parce qu'ils sont faits avec les mêmes logiciels et avec des artistes qui passent d'un studio à l'autre, vous savez, c'est pas très compliqué.
Des artistes itinéraires.
Ouais. Alors, c'est pas très compliqué, on nous présente ça comme quelque chose d'extraordinaire, mais en réalité c'est assez banal, c'est un jeu de concurrence entre plusieurs studios avec des artistes qui ont été formés au même endroit, donc beaucoup en France, au studio des Gobelins, à l'école des Gobelins, que j'ai fait d'ailleurs, l'école des Gobelins, il y a à peu près, en 1980, c'est les premiers de l'école des Gobelins.
Les Américains viennent chercher le talent en Europe. Alors, effectivement, comme Walt Disney, lui, il a accouché d'une souris, Mickey a accouché d'un empire, et cet empire aujourd'hui, l'empire, l'univers Disney, ce n'est plus que Walt Disney et les productions Disney, c'est aussi Marvel, c'est aussi Lucasfilm, c'est aussi Pixar. Est-ce que Walt Disney aurait été en adéquation avec tout cela ?
Je pense que Pierre Lambert a déjà donné un élément de la réponse. Oui, c'est-à-dire que, effectivement, le dessin animé à l'ancienne avec le charme du dessin, hélas, chez Disney, c'est terminé. Il y a le fait que les animateurs passent un peu d'un studio à l'autre. Là où j'ai envie justement de nuancer un tout petit peu ce qu'il a dit, c'est que Pixar parvient quand même via l'originalité de ces scénarios
à
sortir du lot, mais sinon c'est vrai qu'il y a un côté normatif dans l'image de synthèse qui est un petit peu désolant. Aujourd'hui, on a un nouveau film d'animation tous les mois. On est gavé de films d'animation, donc il y a une banalisation de la discipline qui rend la surprise, et forcément qui a fait disparaître le phénomène de rareté. Et donc c'est plus difficile, me semble-t-il.
Donc Pierre Lambert, pour conclure, heureusement qu'il nous reste les premiers dessins animés, ceux réalisés par Walt Disney.
Oui, alors il y a ceux-là, et puis il y en a les plus récents, heureusement, qui sont formidables. Le Livre de la Jungle, qui date de 67, au moment à peu près de la disparition de Walt Disney, est pour moi un des meilleurs films de Walt Disney. Voilà, et puis aujourd'hui, il y a plein de choses formidables. Donc, c'est pas une question. Vous savez, il y a beaucoup d'artistes de grands talents. Alors, c'est vrai que ces films de l'époque de Walt Disney ont beaucoup de charme parce qu'ils ont été faits par des gens qui dessinaient, qui faisaient du dessin animé. Vous savez, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, tout était dessiné à la main, filmé image par image. Donc, ce que l'on voit sur le grand écran, ce sont des dessins qui ont été faits par des personnes. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur grand écran, ce sont des images d'ordinateur qui ont été créées indirectement par des artistes. Donc, c'est un petit peu différent comme approche. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a du charme dans toutes les époques. J'adore Ratatouille, par exemple. Ratatouille, je pense que c'est un film qui aurait pu être fait par Walt Disney. Mm-hmm. Voilà, contrairement à d'autres dessins animés de Pixar. Parce que c'est une question de sujet, une question d'état d'esprit. Et Ratatouille est tout à fait dans l'état d'esprit, par exemple, de La Belle et le Clochard.
Bien sûr.
Artistiquement, au niveau de la mise en scène, voilà, avec en plus l'apport de la 3D. Donc, mais l'état d'esprit est le même que celui que Disney avait à l'époque. Donc, par contre, Star Wars, je doute beaucoup plus que Marvel ou Star Wars aurait intéressé Walt Disney. Mais enfin, je peux me tromper, hein, moi, je ne suis pas devin.
Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, messieurs,
merci.
D'avoir été présents avec nous ce matin pour parler de tout cela, de Walt Disney, de Mickey Mouse, de cet empire. Merci beaucoup.